Chapitre 6e. Son style. Chateaubriand a eu comme écrivain quatre manières. Il a eu d'abord le style diffus et embarrassé de l'essai sur les révolutions, puis celui des Natchez, de René, d'Atala, du génie, de l'itinéraire, notes écrites avant les martyrs, puis le style peu différent au fond, mais un peu plus guindé et étendu des martyrs, où il se hausse au ton épique, déjà essayé dans les Natchez. Puis le style des mémoires et de la vie de Rancé, qui est très mêlé, souvent très beau, sentant parfois la décadence. Son vrai style, celui qui le caractérise le mieux, et qui est celui que tout le monde a dans l'esprit quand on dit le style de Chateaubriand, est celui de la seconde manière. Éclat, nombre et harmonie, voilà de quoi il est fait avant tout. Le détail caractéristique qui met l'objet en plein relief et y ramasse la lumière et y appelle le regard, est son premier moyen pour faire luire et briller le discours. Il nous peint, dans un camp à l'aube, le centurion se promenant devant les faisceaux d'armes en balançant son cep de vigne, la sentinelle immobile qui, pour résister au sommeil, tient un doigt levé dans l'attitude du silence, le victimaire qui puise l'eau du sacrifice, et pour l'effet de contraste, un berger appuyé sur sa houlette qui regarde boire son troupeau. Tout le dénombrement des deux armées, dans les martyrs, livre 6, avec les vexillaires distingués par une peau de lion qui leur couvre la tête et les épaules, les chevaliers romains au casque d'argent surmonté d'une louve de vermeil, à la selle ornée d'ivoire et de pourpre, avec les francs, parés de la dépouille des ours, des veaux marins et des urocs, leurs anneaux de fer aux bras, et derrière eux leur camp retranché avec des bateaux de cuir et des chariots attelés de grands bœufs. Tout ce tableau pittoresque, d'une nouveauté extraordinaire en France, est fait simplement d'exactitude et de couleurs locales vraies répandues sans profusion. Ajoutez-y l'art de grouper et d'encadrer une scène, qui redouble la vivacité de la peinture en la distribuant et en la limitant. Troupes d'arabes hors peau, attachés à des piquets, les chameaux forment un cercle en dehors des descendants d'Israël. Le père de la tribu raconte les maux que l'on faisait subir aux chrétiens. À la lueur du feu, on voyait ses gestes expressifs, sa barbe noire, ses dents blanches, les diverses formes qu'il donnait à son vêtement dans l'action de son récit. Ses compagnons l'écoutaient avec une attention profonde, tous penchés en avant, le visage sur la flamme, tantôt ils poussaient un cri d'admiration, tantôt ils répétaient avec emphase les gestes du conteur. Quelques têtes de chameaux s'avançaient au-dessus de la troupe et se dessinaient dans l'ombre. Ces comparaisons sont restées célèbres. Beaucoup en effet sont œuvres originales, c'est-à-dire sont des tours de pensée au lieu de n'être que des procédés de style. On a beaucoup cité cette haute colonne qui se montre seule, debout dans un désert, comme une grande pensée s'élève par intervalles dans une âme que le temps et le malheur ont dévastée. Se penchant à rapprocher d'un état de l'âme, un objet matériel qui devient ainsi un symbole est très marqué chez lui. Ainsi l'espoir qui renaît au cœur et fit entendre sa chanson vaillante lui rappelle le pauvre coq que des marins ont embarqué sur leur esquif et dont le chant est d'autant plus doux à entendre que l'on est loin de la terre qu'il rappelle. Ainsi encore, le cœur le plus serein en apparence ressemble au puits naturel de la savane Alakna. La surface en paraît calme et pure. Mais quand vous regardez au fond du bassin, vous apercevez un large crocodile que le puits nourrit de ses eaux. Le nombre, qu'il faut distinguer de l'harmonie, est le don de présenter la pensée, même quand elle n'est point pittoresque et n'a aucune harmonie de la nature à exprimer, sous une forme pleine, sonore, pondérée, et où l'oreille trouve avant l'esprit et une excitation et un plaisir. C'est l'harmonie de la pensée elle-même, de la pensée qui se développe et se déroule avec la grâce facile et la démarche rythmique des êtres heureusement nés et bien faits. Les maîtres du nombre sont Platon, Cicéron et Bossuet. Ce qu'ils ont trouvé, chacun dans sa langue, c'est le secret des rythmes propres à la prose, rythmes très complexes, très délicats, très fuyants, plus difficiles à saisir que ceux de la poésie qui sont plus fixes, d'un charme incomparable quand ils sont atteints. Voici une phrase nombreuse, qui ne peint rien, qui ne décrit pas, qui ne veut point faire passer dans les mots le souffle rude et sourd des vents, ou la fuite souple et ployante des eaux, mais où se sent l'équilibre naturel et sans apprêt d'une pensée. Quel cœur si mal fait n'a tressailli au bruit des cloches de son lieu natal, de ces cloches qui frémissent de joie sur son berceau, qui annoncèrent son avènement à la vie, qui marquèrent le premier battement de son cœur. Tout se trouve dans les rêveries enchantées où nous plonge le bruit de la cloche natale. Religion, famille, patrie, et le berceau, et la tombe, et le passé, et l'avenir. Chateaubriand a retrouvé ce secret, à peu près inconnu depuis Bossuet. Il a rendu à la langue comme la palpitation d'un grand souffle depuis longtemps tombé ou languissant. Quant à l'harmonie proprement dite, celle qui consiste à suggérer au lecteur l'état d'esprit où le mettrait un tableau ou un concert de la nature, nous avons assez cité pour que l'on sache déjà à quel point Chateaubriand est l'enchanteur, comme disait Joubert, ou le magicien, comme dit Horace, qui nous transporte où il veut et nous fait entendre à son gré toutes les voix charmantes ou terribles de l'univers. Son style se gâta plus tard. Celui des mémoires est bien singulièrement inégal. Très souvent pur, nombreux, sonore comme autrefois, et plus court, plus énergique, d'une plénitude plus savoureuse. Quelquefois brusque, saccadé, visant à étonner. À cette époque, Chateaubriand a une préoccupation, une tentation qui souvent le perd, celle de renouveler son style en substituant à la belle phrase harmonieuse d'autrefois la formule concise et voyante, le mot à effet. Il en a de beaux. Il parle de Barère, ce troubadour de la guillotine. Pour montrer qu'il ne restait rien des forces constitutives de l'Ancien Régime en 1789, il dira « La révolution était finie lorsqu'elle éclata. » Mais ces formules, il les prodigue et toutes ne sont pas aussi heureuses. Dans la vie de Rancé, le style est franchement mauvais. Prétention assez fréquente chez les vieillards, au désir de rivaliser avec je ne sais quel contemporain, il a voulu être léger et comme fringant, avec des échappées de profondeur. Il bondit sans transition d'un sujet à un autre, avec une allure de brouillon essoufflé, puis laisse tomber un axiome de philosophie historique solennellement puéril. On dirait du Jules Janin traversé par des pensées d'Henri Martin. Il écrit « Tout ce système d'amour quintessencié par Mademoiselle de Scudéry et géographié sur la carte de Tendre se vint perdre dans la fronde, gourme du grand siècle encore au pâturage. » C'est une des immortalités contradictoires de Richelieu d'avoir eu pour panégyriste Rancé, scoliaste d'Anacréon et Corneille qui devint à son tour pénitent. Je ne dis cela que pour être complet et consciencieux, et je relis le premier livre des martyrs.